podcast.com. Essaye ça.
Et là, 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 c'est en train de se passer, mesdames et messieurs, c'est notre invité François. C'est lui. Il a dit, c'est ce soir qu'on fait ça. Et mesdames et messieurs, c'est ce soir, c'est en train de se faire. Vous êtes en train d'écouter Terrain Basique, le plus québécois des podcasts sur Magic the Gathering. Et la trame sonore, c'est le premier de tous les Zelda. Quelle trame sonore iconique, quel jeu excellent. Ça vieillit super bien. Moi, ce jeu-là, en fait, j'ai eu une pause presque dépendante. Là. Tu sais, je me levais vers 6 heures du matin, puis là, j'allais jouer à Zelda 1. Tu sais, on l'avait reçu à Noël, c'était les vacances. Là, je jouais de 6 heures le matin. Là, ma mère, elle me disait, hey, viens souper à un moment donné. Puis, tu sais, des fois, j'y allais pas. Puis, elle disait, ben là, en tout cas, t'as beau faire fret. Puis, vers 4 heures, 5 heures du matin, j'allais me coucher parce que j'étais trop fatigué. Puis là, je me relevais à 6 heures. Tu sais, je dormais des 1, 2 heures. Puis, je mangeais plus. Je jouais à Zelda Tommy Godette en 1987. Gros problème de dépendance. Gros problème de Zelda. Quel excellent jeu. Sinon, ben, on est avec Jason cette semaine. Salut, Jason.
Eh bien le bonjour, bien le bonjour.
Puis, tu nous as recruté François hein, d'Herba Thibodeau. C'est pas la première fois qu'on le voit.
Non, c'est son premier passage. C'était à l'épisode 106. On avait fait The Dark.
Oui.
Et là, il est venu pour nous parler de deux choses.
Deux choses, OK.
J'avais invité François pour qu'il nous parle le gros tournoi, le plus gros tournoi old school qu'il y a au Québec. On avait fait celui de l'année passée, là, épisode 70 au mois de mars. Puis là, il est de retour pour l'édition 2021. Puis j'avais dit à François, on va aussi inviter celui qui va gagner le tournoi. Ben écoute, ça s'est transformé en deux pour un. François, mon plein de marde.
Ah, c'est ouais. Lui qui a gagné.
Ouais, t'as gagné ton propre tournoi.
Pas sketch, pantoute. Pas des manigances, là, c'est vraiment arrivé. Écoute, j'ai pas fait exprès. Mais c'était chaud, je pigeais, mon gars, c'était comme chaud.
Écoute, la quantité de drafts qui se sont passés chez moi puis que j'ai gagné, je comprends ce que tu vis. T'sais.
Même histoire.
Ben oui, c'est ça. C'est qui a été couronné, c'est le meilleur, puis c'est qui le meilleur, ça donne que c'est toi.
Exactement, j'aurais pas pu lui dire.
Ben oui, c'est ça. Puis il y avait combien de personnes à ce deck-là? On jase de quoi en début, là?
C'était 50 personnes qu'on a eues cette année, ce qui nous met encore à... Chaque année, c'est un petit peu plus gros. Là, on a commencé à 35, 35, 40, 45. Ben 50 cette année. Fait que...
C'est ton quatrième là, que tu organisais? Là.
C'est le quatrième, oui.
Et c'est à chaque année, encore une fois, hein, au moins.
Chaque année, toujours au printemps.
Ouais, c'était la première fois que c'était pas dans un bar, malheureusement. Mais c'est un bon turnout là, pour le tournoi webcam. Ça a dû te faire une... C'est un truc que je voulais aborder brièvement. T'as mis... Je vois que tu mets cœur et âme dans l'organisation de ces tournois-là. Mm-hmm. T'as couru beaucoup là, pour que ça ait lieu. Là. Parce que t'es allé chercher des commanditaires. Il a fallu que tu t'assures que ah ouais, les gens, inscrivez-vous.
Oui, oui. Écoute, c'est comme un bébé. Là. Ça fait 4 ans, fait qu'au moins la formule s'en vient rodée. Mais comme bien des affaires que j'ai faites, puis comme la communauté Old School de Montréal, j'ai une approche très organique. T'sais. Je regarde ce qui se passe, puis au fur et à mesure, oh, je vois des petites étincelles, des petites opportunités ici et là, des petites personnes qui veulent s'impliquer. Puis là, ben, je leur dis, ben, qu'est-ce que ça tenterait de faire? Puis là, ils s'impliquent de même. Puis là, rendu au quatrième, je te dirais qu'on a eu un beau travail d'équipe. Encore plein de ficelles qu'il fallait tirer pour s'assurer que tout se fasse. Là. Mais aussi les partners, des stores commanditaires ou bien des juges professionnels qu'il y a, ils disent c'est des tournois, c'est comme un événement bénéfice, on va agir pour vous de manière bénévole. Puis là, tout ce monde-là, je m'assure que ça chemine dans la bonne direction et dans les bonnes dates. Mais
oui, parce que pour le rappeler aux auditeurs, c'était 15$ l'inscription.
C'était 15$, vu qu'on se disait c'est par webcam, c'est un peu moins consistant que quand on le fait dans les bars, tu sais. Mais finalement, on a tellement fait de swag, des étampes, des macarons, des affaires que on l'a un peu regretté un peu plus tard là, d'avoir chargé si peu. Mais finalement, on a eu quand même une édition haute en couleur, là, justement, avec si vous avez vu le Tournament Report sur notre blog, on a comme une belle photo du prize pool, là, puis c'est comme frivole avec des halters puis tout ça.
Ouais, on va le montrer à l'instant, si tu permets. Ça vaut vraiment la peine. Ça, c'était le... On a les fameux autocollants là, que tu avais fabriqués.
des fameux.
Vous voyez à l'écran?
Ouais.
Cool.
Je pense que tu en as encore à donner, hein, ou à vendre?
En fait, on continue la vente et tous les profits vont encore à Jeunesse au Soleil, qu'on soutient depuis 4 ans. Fait que là, on est rendu dans les autour de 3 000 $ qu'on leur a donné, je pense, tous les bénéfices de l'événement.
C'est un acte de payer, bien entendu, de la crème solaire pour que les jeunes au soleil puissent pas pogner de nan.
Non, Tommy, ce n'est pas une compagnie de crème solaire. Et donc, dans les 4 ans, là, on est rendu autour de 2 500 $, je pense, de dons ou 3 000.
C'est cool.
C'est sécurisé, donc, on continue de vendre des packs de 5. Fait que tu as une Abomination, un Démonic Star, un Atog, une Chaos Orb et un Juzam, tous très iconiques, mais coiffés du chapeau des loups. Parce
qu'on est une Abomination, toi, hey, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. C'était
quoi, oui, on se disait que...
Deux noirs, 3 colorless, puis c'est un 2-6 qui fait 2 de dommages aux joueurs qui ont du blanc, genre?
Non, c'est protection du blanc, protection du vert, je sais plus.
À la fin de ton combat, tu détruis toutes les créatures vertes et blanches qui ont bloqué ou qui ont été bloquées par l'abomination.
J'ai beaucoup d'amour pour l'abomination, mais ce n'est pas pour son habileté, c'est plutôt pour son art. Et donc, ces sticker packs-là sont disponibles pour la somme modique de 7 $ canadiens shippés en plain white envelope, mais toujours disponible. Fait que faites-nous signe si vous en voulez, il en reste une bunch.
Jason va s'arranger pour mettre le lien dans la description du show, vous irez voir ça.
Puis ça, c'est le prize pool. Tu t'es amusé fort avec ton crayon de feutre?
Je me suis amusé avec le crayon feutre pour faire les petites griffes / étampes TWC4. Chaque année, c'est moi qui fais ça. C'est un moment de sueur froide intense dans ma vie. Je vais mettre le crayon sur les beaux cartons.
Ouais.
Mais sinon, on a aussi l'altération du Tundra Woods, qui est une gracieuseté de Dave Lee, ou Dirtling Around, sur son compte Instagram, qui est un super altériste qui fait du old school. Cool. Et on a tellement aimé son design qu'on a fait des macarons à partir de ça, avec son approbation. Tirage limité de 40, ils sont tous
partis. Je suis pas super fier de vous autres, là, par contre, parce que en plein milieu de mon écran, là, je vois un balance et ça c'est non.
C'est redoutable. T'as des histoires?
J'ai des histoires d'horreur. Si tu me sors un balance chez nous, je te la défais d'en face puis je veux rien entendre.
Ah ouais, ok, je comprends. C'est absolument horrible.
C'est très frustrant comme carte. J'ai gagné beaucoup de matchs grâce à balance que je n'étais pas censé gagner.
On vient souvent Mind Twist ou bien Librairie of Alexandria pour les non-games en old school, mais Balance est tout aussi coupable.
Je pense que c'est une des pires.
C'est la plus épaisse de tout le jeu, c'est sûr.
Et donc, on a fait des combinaisons. On a même mis de nos étampes sur certaines des cartes du prize pool. Comme vous voyez en haut, les Atog du top 8, on les a afflubés d'une de nos étampes Atog, puis c'est quand même sympathique. Et là, on a eu la bonne idée de mettre une face de Juzam sur le Demonic Star. Et voilà, c'est un de mes préférés ever. Le sticker altération qu'on a appelé, ça donne ça. Là.
Fait que les Atog, c'était pour le top 8, puis les autres cartes, c'était tiré, c'est ça?
Les 5 cartes d'en bas, c'est des prix de présence, parce que c'est important pour nous que tout le monde ait une chance de repartir avec des cartons somptueux.
Oui.
Le Gaia's Leech, le Blood Moon, le Balance, le Factory, le Berserk.
Un Berserk, ça se prend bien, celui-là.
Oui, mais le Balance aussi, c'est du Unlimited, hein, ça fait que ça vaut quand même quelques
beaux. Ah, bah oui.
On a fait tirer ça au hasard entre les rondes. C'est aussi une manière de.
Blood Moon, de Dark, de même, ça doit valoir quand même une assez bonne tranche.
C'est un 80 $ à peu près, là, mais tu sais, puis le Berserk, c'est au-dessus de 100 $, et le Balance, c'était 200 quelque chose.
Ah,
man. Ensuite,
200 $ pour le Balance.
Oui, il y a une limited.
Oui, il y a une limited, oui.
Ah, ok.
C'est les prix ont monté comme des fous cette année, en plus.
Oui, c'est sûr.
Vraiment pas. Le Brain Geyser que tu vois qui est revised, si je m'abuse.
Oui, c'est un revised near
me. Il est rendu 100 $ aussi, là.
Il est rendu 100 $. Le Brain Geyser, donc, va au deck le plus créatif, le plus épicé. Ensuite, le Meekstone va au meilleur Unpowered qui se place. Le Tundra Woods va au gagnant de toute l'event. Et le top 8, c'est les cartons en haut qu'on voit en fait.
Pour les néophytes, le Unpower, c'est des gens qui ne mettent pas de Power 9 dans leur deck parce que le Tundra Wolf Tournament permet les proxys. Donc, si vous voulez jouer des Mox, là, vous pouvez les faire proxy, mais en même temps, il y a une façon d'encourager les gens à ne pas aller là.
Absolument.
Et, ils sont récompensés. Puis, donc, ouais, c'est pas mal cool, ça.
Fait que c'est ça, et on a pas, excuse-moi, on n'a quand même pas dans cette photo-là en particulier une Wheel of Fortune Unlimited, mais altéré pour avoir le bord noir qu'on a mis aux enchères avec tous les profits qui vont à Jeunesse au Soleil. Et donc ça a été ajouté par Top Deck Hero, qui était notre commanditaire. dans les derniers jours avant l'événement. Puis on a fait donc une enchère avec ça et ça a été très
intéressant. Ah oui, je l'ai vu live, ça. C'était quand même crazy, là.
Oui, c'était fou. Ça...
Il y avait Martin Boutet, d'ailleurs, qui est un de nos auditeurs, qui s'est lancé là-dedans, puis il a fait monter ça haut pas mal. Je pense que 280, si tu peux dire.
Ah non, ça partit à plus que ça. Ouais, ça partit à 800 quelque chose.
800 quelque chose?
Ouais.
Toute ta jeunesse au soleil?
Toute ta jeunesse au soleil.
Wow.
Hey, pour une carte.
Passion. Ça en est une crissement le fun, par contre. Mais ouais, 800$ pour une carte. Alors, mec, vous niaisez pas avec ça, vous autres, les Tundra Wolves.
Ben, moi, je revenais pas, là, je regardais la discussion défiler, là, puis j'étais comme, ben voyons donc. Puis là, au début, c'était comme à 400, puis j'étais comme, ben voyons donc. Puis c'était
oui, moi non plus, on n'y croyait pas. On se disait, ça peut pas partir à 400. Hey, t'as mis ça là, en magasin, ça se vendait, je pense, 1600, tu sais. Puis là, l'enchère la plus haute, au moment où c'était supposé finir, était à 400, mais on avait une règle que si tu bidais, on laissait 10 minutes au prochain pour tu décider, là, pour laisser une chance pour pas qu'elle se fasse sniper. Puis là, comme ça, ça a parti en vrille, mais au dernier instant, puis ça a monté jusqu'à 800.
Je pense qu'il y avait un gars de Québec puis un gars de Montréal qui se sont... C'était comme les derniers, là, puis ça se lançait... Ils se lançaient le Wheel of Fortune un à l'autre, là.
Ouais, c'est ça. C'était de toute beauté.
On les salue. J'ai oublié leur nom, là, malheureusement.
Je pense que c'était...
Peux-tu qu'il y avait Popeye?
Martin Boutet, puis c'était-tu pas Alex Blanchette, là? Je sais plus.
Ouais, il y a un gars sur Discord qui s'appelle Popeye. Son vrai nom, c'est François. Il a découvert Old School en écoutant Terrain Basique, d'ailleurs. On le salue. Vraiment drôle. Et il joue avec... comment on appelle ça à Magic, là, pas un apron, là, son tapis de jeu, là, c'était probablement la nappe la plus laide ever, là, puis c'est vraiment awesome. C'est un genre de jaune fleuri. Il joue dans son garage.
Ouais. Bon, ben, pas là. Écoute, ça a brassé. Pendant qu'on est sur le shout-out à des gens, oui. J'aimerais dire salut à Cyril Nicolaou qui nous a écrit sur... J'y ai dit que je dirais salut. Fait que j'y ai dit salut. Merci.
Ah, c'est nos cousins outre-Atlantique, ça?
Oui, c'est ça. C'est un auditeur francophone.
On les salue.
On est nous autres francophones. Fait que c'était pas le bon mot. Mais
ouais, comment tu trouves, François? J'avais une question un peu plus philosophique.
Oh.
La direction que prend toutes on a vraiment vu la pandémie a beaucoup aidé, en quelque sorte, là. Le fait que les gens jouent par webcam, puis ils essayent beaucoup d'affaires, puis ils sont capables de connecter avec plus de monde qu'avant. Puis ouais. J'ai remarqué, il y a comme un fractionnement. Là. Les gens commencent à essayer plusieurs affaires. Je vais faire une petite bitcherie drôle ici. Là, même au sein de notre groupe de joueurs à nous, là, ceux qui sont en bas du ranking, ils ont commencé leur Magic casual. Là, on veut pas de cartes trop fortes pour faire des decks... Des decks funny. Certains diraient que c'est comme sont comme trop losers, là, fait qu'ils veulent pas de Power 9 à leur table pis ça. Mais moi je trouve ça cool parce que ça fait une belle variété. Puis je sais qu'ils nous écoutent, c'est pour ça que je fais cette bitcherie-là. Là. Mais j'ai l'impression qu'il y a comme un fractionnement là, dans plein de directions. Moi j'ai commencé à jouer beaucoup des. Comme là, j'ai commencé à jouer à Popper puis des Constructed Blocks qu'ils appellent. Mais t'as-tu l'impression là, que ça commence à se diviser puis que ça va faire des plus petits groupes de joueurs ou ça va tout le temps pour des gros événements revenir?
Ben écoute, c'est intéressant que tu appelles ça comme ça, fractionnement. Moi, j'aurais plutôt dit émergence de sub-niche, de sous-niche, tu sais, parce que le groupe central, puis on en parle entre nous des fois, là, le groupe central, il n'a pas l'air de s'affaiblir, au contraire, il a l'air de se renforcer. Oui. C'est vrai qu'autour de ça, il y a différents petits espèces de satellites ou modules qui viennent se connecter puis qui émergent, dont l'argumentaire sur le casual, qu'on peut, tu sais, ta lecture est drôle de dire que c'est parce qu'ils sont losers ou moins bons. En fait, il y a des extraordinaires joueurs qui plaident pour qu'on joue plus qu'à joueur.
Non, mais je fais partie d'eux, là.
Je fais de l'esprit bottine, là, mais tu sais, juste pour, par exemple, qu'on puisse voir Abomination plus souvent, juste parce qu'on s'en ennuie de cette carte-là, tu sais, parce qu'il y a plein de cartes comme ça qu'on aimerait les jouer, mais que si on optimise juste, là, ben on les verra pas souvent, ces cartes-là. Fait que là, il y a des jeudis casual qui s'organisent, puis ça l'émerge comme d'autres sous-formats. Mais tu sais quoi, le old school, tu sais, le bloc central, là, mettons Atlantique puis Boréal, on y revient, puis tout le monde est tout le temps au rendez-vous. Autant pour les mensuels qui n'ont jamais été aussi populaires, autant pour le challenge, soit ça continue de monter en attendance. Le Boréal Community Cup qu'on a organisé là, depuis février, c'était le plus gros événement par webcam d'un jour, Magic, oui. Catégorie confondue. 75 personnes de partout au Canada puis un peu ailleurs. Ça montre que la mobilisation est encore vraiment là, maintenant plus que jamais. Fait que t'as raison que les webcams rendent ça plus accessible.
Ben, y en a qui s'essayent. Puis, Tommy, j'ai une question quiz pour toi. As-tu déjà joué à un Mana Battery?
Ben oui. La Black Mana Battery dans le temps, ben oui, je
n'avais pas. T'es-tu déjà fait crisser une volée par un Mana Battery?
Non, ça non, par contre. Ben oui, bon. Peut-être, oui. Moi, oui. Il y en avait un qui s'appelait Blue Mana Battery, elle faisait chier quand même pas mal. Là. C'est pas pire, ça. C'est quoi? C'est 4 colorless, puis tu peux la taper pour avoir un mana de la couleur du Mana Battery. Sinon, tu peux la taper, puis rajouter un compteur dessus, qu'après ça, quand tu la tapes dans le futur, ça tu peux enlever des compteurs.
Ça vaut le nombre de counters que t'enlèves, oui.
Ouais, c'est ça.
C'est exactement ça, mais tu vas voir des affaires. Il y avait quelqu'un qui s'est pointé, on va en parler après la carte de la semaine, mais quelqu'un qui s'est pointé avec un tribal Mana Battery. J'en revenais pas quand j'ai vu ça, j'étais comme, ben voyons donc, c'est. Il est allé là, genre. Il est allé là, le plus gros tournoi de l'année, puis il est allé là.
Ouais. C'est quoi tribal Mana Battery? C'est genre un deck de gobelins avec des Mana Battery roux.
Non, c'est, tu vas voir tantôt, on te garde ça comme punch.
Ok, c'est bon.
C'est un deck de Mana Battery et il n'y a rien d'autre.
Oui. J'ai peut-être une petite chose à rajouter, la gang. Oui. Tout à l'heure, Tommy, tu disais salut à je ne sais plus quel cousin.
Oui.
Ben justement, je mentionne que pour le challenge et grâce au webcam. Cette année, c'est la première fois dans le challenge qu'on avait des participants d'outre-mer d'Europe. D'habitude, c'était du Canada, surtout Québec, beaucoup, mais là, on avait des gens de France, d'Allemagne et même de Suède qui ont participé. Et plus d'un de chacun de ces
pays-là. Ouais, c'est quand même cool.
Donc, vraiment, le webcam transforme toute l'accessibilité.
Ben oui. Ça fait que ça devient comme important d'être capable de parler anglais ou vous laissez les cartes parler? Genre.
Non, tu sais quoi? Ben, premièrement, Magic est un peu le langage universel qui
c'est ça.
Tout, mais en plus, on a jasé, puis c'est peut-être pas supposé être ça, mais avec nos juges bénévoles, ils sont disponibles en cas de besoin de médiation interlinguistique. Donc, c'est tout avec si jamais vous ne comprenez pas le jeu, je vais venir vous aider. Puis,
oh ben c'est très sympathique. Moi, j'ai passé une petite année au Danemark et il y avait quand même une assez grosse communauté de joueurs de Magic. Là, puis ça nous ramène en 2004. Là, il y avait au centre-ville de Copenhague, au deuxième étage du magasin de cartes, il y avait une salle à jouer. C'était immense. Là, puis le gars, il se vantait. À toutes les fois, j'y allais. Il disait, c'est la plus grosse carte de toute la Scandinavie, la plus grosse salle de toute la Scandinavie. Puis c'était une belle place. Je m'ennuie.
The Long House.
Ouais, exactement.
Le format old school a pas mal. Ce qu'on joue, là, ça a pas mal commencé en Suède. Puis je pense là, que dans les pays européens, un des pays où il y a la plus grosse communauté de Magic assez forte, là, les Scandinaves, ils scorent pas mal haut. Puis les Italiens, parce que d'ailleurs, les premiers sets qui ont été traduits, c'est pas en français, c'est en italien. The Dark et Legend ont été les premiers à être traduits.
Ouais.
Puis ça s'est traduit le fait que ça s'est transmis en fait qu'il y a des grosses communautés de joueurs italiens, tout format confondu à cette heure-là, 20 ans.
Comme le rock progressif, hein? Le rock progressif, ça a pogné en Italie puis au Québec avant
Ah ouais?
Ouais, c'est ça. Le Genesis en tout cas.
Bon, tu connais ça toi, hein?
Le reste, ça suit, moi, ouais, c'est ça.
Les gars, vous êtes tellement cultivés.
Ah, moi, oui. Moi, puis Nonours, on s'en dit des affaires, c'est ma source principale. sinon, écoute, je pense que ça peut nous amener vers la carte de la semaine tranquillement, pas vite. Hein. On va aller jaser de ça avec notre invité François des Tundra Wolves. On s'en va de l'autre bord du beat à bon, hein. Mais avant, on va remercier l'Abyss, www.labyss.com. N'oubliez pas, hein, si vous faites une commande sur leur site internet, ou peut-être live, je ne sais pas trop comment ça marche, mais si vous dites TB, majuscule 2021, c'est 6 digits TB majuscule 2021. Ça devrait donner 10% de rabais. Merci à Milan de nous avoir pogné ça. Et merci à l'Abyss. Donc là-dessus, beat à bonne. Faut le faire pour nos enfants. Puis de quoi qu'on parle?
François?
Ouais.
Le micro est à toi. Raconte-moi le cheminement, là, premièrement. Où c'est que tu les as trouvés? Fais-nous une histoire, là, parce que ça se trouve pas n'importe où, ça, là.
Ouais, non. C'est une carte, OK? Puis moi, c'est, tu sais, on a chacun notre personnalité de joueur, là. mais moi, je suis bien sensible au art des cartes. Puis moi, quand j'ai vu le art de cette carte-là la première fois, j'ai fait « Oh! » T'sais, ça m'a comme donné des frissons mystérieux, un peu épeurants, primal, un peu primate, mais plus mystérieux que juste un singe, tu sais. Avec des couleurs mystiques, tu sais, le violet, les yeux qui percent dans la nuit. Et donc, il s'agit de la bête gardienne, la Guardian Beast, qui m'a absolument saisi la première fois que je l'ai vue. Et ensuite...
Juste faire la description rapidement. Ça vient de Arabian Night, 3 colorless, 1 noir. C'est un Summon Guardian, un 2-4. Oui. Et tant qu'il est untappé, les artefacts qui ne sont pas des créatures que tu contrôles ne peuvent pas être enchantés et ont indestructible. Et ton adversaire ne peut pas en prendre le contrôle. Cet effet enlève aussi les auras qui sont attachées à tes artefacts.
Voilà.
Par exemple, un Steel Artifact.
Mmh. Par exemple. Et donc, moi, de tout temps, j'ai toujours été un joueur un peu contrôle dans Magic. Toujours noir, bleu, très, très attiré vers les artefacts. Et donc, quand j'ai vu que cette créature avait de la synergie avec les artefacts et c'est une créature un peu défensive, j'ai vu que c'était idéal pour un shell noir-bleu, contrôle, artefact. Donc, je l'écoute. C'est comme Cendrillon qui met la pantoufle de verre dans son pied. C'était comme boum, fit parfait. Et donc, le plus vite possible, quand j'ai commencé old school, j'ai essayé de trader pour un playset. C'était encore du moins accessible à ce moment-là. C'était, je travaille pour les trader, etc. Oui. Mais j'en ai trouvé un playset éventuellement. Et là,
c'est dans les trois chiffres, mais à l'époque, ça ne l'était pas encore, j'imagine.
Oui. Ben non, quand même. Écoute, là, on parle de 2017-2018. J'ai tradé autour de 250-300$ pour les premières. Tu sais. Puis c'est des cartes MP, quelques copies de joueurs. Puis là, ça a pris peut-être un an et demi avant que je réussisse à ramasser le playset. C'est comme chasse au trésor.
C'est assez particulier, pareil, comme pouvoir et tout. Ça me ramène à parler encore du fait, moi, c'est un des premiers trucs que je donne à tout le monde à qui je montre comment jouer à ça. Là. Tu sais, moi, ça fait 25 ans que je joue à ça, puis je découvre encore des nouvelles cartes pas mal à chaque fois que j'en parle. Fait que si tu veux être bon à Magic, c'est bien plus de checker ton deck à toi puis d'être capable de jouer ton deck de manière optimale, pas apprendre les cartes des autres et tout et tout. Je l'avais jamais vu. C'est la première fois. Je me rappelle pas avoir vu ça, ce carte-là. Puis pas de joke, ça, Arabian Nights, ça fait autant longtemps que je joue à Magic que ça existe. Puis voilà, je l'ai jamais vu.
C'est une carte qui est très rare. C'est une carte qui est vraiment très rare. Puis donc, les dernières, je les ai pognées autour de 400$. Je suis en train de... Et je me suis donné comme défi, comme quête personnelle. En fait, je ne me suis pas donné, c'est juste arrivé par pur amour pour la carte. De bâtir un deck autour de ça qui fonctionnait quand même. C'était pas évident.
Et quel deck, hein? Parce que t'as gagné le tournoi avec, là. T'as passé à travers 9 adversaires. C'était-tu 9 rounds?
Non, c'était 6 rounds. 6 mais rounds? J'étais undefeated, donc aucune défaite.
Aucune défaite.
Dans les matchs que dans les games. Je n'ai perdu aucune game. Donc, je n'ai perdu aucune game en 12 games et 6 rounds.
Puis ton deck est très, très, très cruel.
Très cruel, très collant, en effet. C'est quand je
vais le montrer à l'écran ici, là.
Ouais.
Ah, oh, fuck, un balance.
Ben ouais.
Ouais, mais tu peux, il y en a rien qu'une, fait qu'il y a juste une chance sur 60 de piger. Mais surtout, ton deck, là, ce que je vois, c'est un deck d'artefacts bleu et noir. Ben. Tu joues 4 copies artefacts, qui est un enchantement, un colorless, un bleu qui copie un artefact. Mm-hmm. Je vois que tu joues 4 mana vault qui rentre pour un colorless, qui permet de faire 3 mana colorless. Mm-hmm. T'as ton set de Power 9, là, tes 5 mox, ta Soul Ring qui fait 2 mana colorless. Ouais. Fait que t'es assuré de pouvoir sortir ton Guardian Beast le plus rapidement possible, puis ton adversaire ne pourra pas les détruire. Mais surtout, où ton deck pivote, je pense, mm-hmm. c'est les 4 IC Manipulator qui te permet de taper n'importe quel permanent de l'adversaire.
Absolument.
Puis ta cerise sur le Sunday, c'est-tu le Winter Orb?
Pas mal la cerise sur le Sunday, c'est très bien dit.
Ça, c'est cruel. Winter Orb, ça fait que tu peux juste en taper un land par tour. Ouais. Mais là, avec ton IC Manipulator, vous irez voir, j'ai mis la vidéo sur notre YouTube. Là, j'ai filmé la dernière game de François. C'est un lock solide. T'as-tu d'autres... Parce que ça, c'est ton plan A, je pense.
Comment dire? Non, je dirais pas...
Explique-nous ton deck, là. On l'a.
OK, c'est parce que là puis je vais préciser que ça, c'est à peu près la version 8 du deck. Ça fait 2 ans et demi que je travaille dessus. Okay? Visiblement, c'est la meilleure jusqu'à date parce que ça a vraiment bien été au tournoi. Puis écoute, le deck fonctionne bien, vraiment bien. Le plan A, OK, tu mets un mana vault, ça l'accélère tout d'abord, un IC manipulateur.
Oui.
À partir de là, tu te mets à faire de la disruption sur le plan de l'autre, son mana.
Tu tapes ses lands, tu tapes ses créatures qui t'attaquent.
Je mets ensuite un copier artefact qui me donne deux manipulateurs pour vraiment faire tuer l'autre.
C'est ton manipulateur que tu copies?
Oui, c'est le manipulateur que je copie. Ça, c'est le plan A. Okay. Et là, donc, je ralentis l'autre. Ça me laisse le temps de sortir une beast qui protège les manipulateurs. Donc, les manipulateurs deviennent quasiment impossibles à enlever si tu n'enlèves pas la beast. Et à ce moment-là, je gagne tellement de temps qu'éventuellement, je vais piger la Chaos Orb. Et la Chaos Orb est le combo avec le Guardian Beast. Veux-tu expliquer pourquoi?
OK, Chaos Orb, c'est deux colorless. C'est un artefact. Faut que ils ont un peu changé la règle là, pour que ça. Surtout en webcam, ça serait trop compliqué sinon. Tu targets une carte, un permanent de ton adversaire, en prenant une carte que tu as de ton bord, qui devient un peu comme la représentante de celle-là. Puis il faut que tu la flippes de 360 degrés, 30 cm, je pense.
Ouais, un pied, 30 cm.
Un pied au-dessus de la table. Il faut qu'elle fasse un tour complet de 360, puis où elle atterrit, ça détruit le permanent. Bien sûr, ce que les gens oublient souvent de Chaos Orb, c'est que c'est pas comme les nouvelles cartes, c'est pas que tu sacrifies ton Chaos Orb pour l'utiliser, c'est que tu le destroys.
Mm-hmm.
Donc, le trick avec la Guardian Beast, c'est qu'à rate, ton Chaos Orb est destructible, c'est que tu peux le faire à volonté cleaner la table. Mais il faut que tu réussisses. Ça devient physique, en fait, ton combo, parce que tu dois. Tu sais, t'as beau dire, ben là, c'est facile, t'as un flip 10 fois, puis tu détruis 10 permanents. Mais non, il faut que tu la flippes 10 fois, puis il faut que les 10 fois, à un pied au-dessus de ta cible, elle a fait un flip de 360 degrés. François, c'est quoi ton record à date?
Ben, écoute, si tu parles. Moi, mon record, c'est plus. Je joue ça parce que je trouve ça vraiment le fun. Il y a quasiment rien de plus fun que flipper des orbes.
Comment vous le faites en webcam de même? Tu peux pas.
Je viens de l'expliquer. C'est que tu cibles une carte de ton bord qui devient la représentante de l'autre bord.
OK,
c'est
OK.
C'est ça.
Okay.
Donc, tu flippes devant la webcam.
Oui.
Je pense que j'ai comme des bons moments et des moins bons moments. Mais des fois, comme quand je suis en feu et que le deck est en feu, je fais des folies et j'ai déjà. Flipper deux, parce que j'ai des copies artefacts. Quand je suis en contrôle de la game, je vais copier l'orbe et là, je vais péter deux permanents de la fois. J'ai déjà eu trois orbes et donc là, j'étais...
T'en as-tu déjà flippé deux en même temps?
J'en ai déjà flippé deux en même temps, une de la main gauche et une de la main droite. Donc, c'était un fameux match à Boston, en tout cas, historique. Mais c'est même déjà arrivé par webcam cette année que j'avais deux copies artefacts et une orbe, donc j'en flippe trois en même temps. Et là, j'ai tenu les trois en pile, j'ai mis les trois sur une pile. Et j'ai flippé tout d'un coup. Ben, ça n'a pas marché du tout, mais au moins, tu sais, c'était super.
Ben, c'est drôle en crise, là. Ta Guardian Beast, ça les rend indestructibles. Fait que tu te restais le tour d'après si t'as plus de mana. Là.
Exactement. Donc, c'est parfait pour moi. J'aime exprimer ma candeur et mon bonheur, tu sais. Puis ça me permet de faire toutes sortes de frasques, d'être très frivole, cette carte.
Wow.
Et donc, c'est un peu l'intégration des deux plans manipulateur et le plan combo. Puis je dirais juste une dernière affaire, si tu me permets.
Oui, oui, oui.
Fonctionnellement, là, il y a comme une espèce de sous-basement qui vient soutenir ça. C'est que les Sage of Latnam, qu'on n'a pas pointé.
Sage of Latnam, un colorless, un bleu pour une 1-1. Faut que tu la tapes?
C'est pour 1-2. Si tu la tapes, tu sacrifies un artefact, tu piges une carte.
Ça, je ne comprends pas comment ça peut être bon.
Oh.
Explique-nous ça.
Ça a l'air de rien. Okay,
c'est une carte de 25 cents, là.
C'est ça.
Même antiquity.
Mais c'est vraiment un petit peu le mortier qui tient le deck ensemble parce qu'on se souvient qu'au début de tout ce plan-là, OK, j'ai
quatre
mon mana vault.
Oui.
Et mon mana vault, tant qu'il reste tapé, ça me fait un dégât par tour.
Ah.
Vu que j'ai des manipulateurs qu'il faut que j'active, il faut que je mette mon mana dans les manipulateurs. Mais si je laissais juste le mana vault là, pendant tout ce temps-là, je finirais par mourir au mana vault. Mais non.
Il va te tuer lui-même, oui.
Le Sage of Latnam vient en jeu. Et je vais tout de suite sacrifier le mana vault, ce qui va me permettre de piger une autre carte, ce qui me fait un effet de. Pseudo-workshop qui cantrip.
Ouais.
Mais en plus de ça, ils trade avec des Savannah Lion et les gens le regardent, puis il a vraiment l'air de rien, fait qu'ils vont pas utiliser un Sword to Plowshare pour. Souvent, je vais me ramasser à attaquer avec le Sage of Latnam pour un dégât ici, un dégât là.
Ah ouais?
Mais les Sage, plus les Mishra's Factory et éventuellement des Mishra's Factory que je fais copier artefacts dessus, plus les Beasts qui ont deux de power, ça finit par faire une vraie armée. Armée de Willy. Mais quand moi, je tape toutes tes créatures avec mes manipulateurs puis que je rentre avec ça,
il n'y a pas de bloc.
C'est comme ça que je gagne le game, finalement.
Mmh.
La Winter Orb, c'est si tu fais l'imprudence de taper toutes tes laines, ben là, je vais aller la chercher puis après, tu ne pourras plus rien faire. Mais les Sage of Latinam avec les Factory et les Beasts, c'est comme un très subtil plan beatdown B.
Puis, tu as pris ce deck-là où? Tu sais qu'il t'a mis beaucoup de toi. Tu dis que ça fait 2 ans que tu le runs, là?
2 ans et demi que je le construis, ouais.
Mais ça a sorti de ton chapeau ou tu l'as vu à quelque part, modifié?
Il y a quelque chose qui m'a inspiré back in the days. C'était un deck de Magnus en Suède où il jouait Guardian Beast, mais c'était vraiment pas ça du tout. J'ai surtout vu pour la première fois l'interaction entre Guardian Beast et Kyosurf dans ce deck-là. Mais lui, il avait toutes sortes d'affaires. En fait, ça ressemblait vraiment pas à ça. Puis c'est là que j'ai remarqué l'interaction. Fait que je peux dire que je suis inspiré de ça, mais sinon, c'est vrai que Guardian Beast, dans un deck, on les voit vraiment pas souvent. Des fois, c'est une fois dans Disco Troll. Là, moi, j'ai dédié un deck à ça, et avec les manipulateurs, c'est vraiment l'espèce de la synergie là, fonctionne super bien.
Puis il faut le faire, parce que je me dis, ça mérite le shame. Patrick Bird, qui est déjà venu à notre émission, il est terminé en finale contre toi à ce tournoi-là.
Ouais.
Puis, tu sais, quand on vous dit de lire les cartes,
hein, Tommy? Pas lu la carte.
Toujours lire les cartes. Puis Patrick Burt a laissé François le tuer avec son Mishra Factory. Mm-hmm. Puis il y avait plein de Lightning Bolt pis ça dans la main, mais tout le long, il pensait qu'il pouvait pas tuer le Mishra Factory parce qu'il pensait que le Guardian Beast rendait les artefacts créatures indestructibles. Il aurait lu la carte, il aurait pu s'en débarrasser. Il a perdu à cause de cette erreur niaiseuse-là.
Mais il est écrit sur le Guardian Beast que c'est les non-creature artefacts.
Ben oui, mais écoute, hey, là, toujours lire la carte.
Coacher, moi et lui, on va s'entraîner, on va faire un montage qui a de l'allure, puis on va revenir. On va revenir plus fort. Ben écoute, je pense que ça nous amène à la fin de la carte de la semaine. On va s'en aller en dernière partie d'émission. Je pense qu'on va voir un petit peu plus en détail les decks qui se sont affrontés à votre tournoi, qui est très profitant pour les enfants qui ont trop de soleil. Là. On check ça. C'est Beta Boom! Tu aimes la dictature, tape des mains. Hey, on parle de quoi, là? On parle de votre tournoi tantrique, là?
Mais il y a un terme qu'on utilise beaucoup, ça devient de plus en plus à la mode, puis je le vois dans d'autres formats, c'est de dire qu'un deck est spice, est épicé.
C'est quoi ça?
Un deck épicé, c'est que plutôt que de maximiser ton deck vers ce qui est le meilleur, tu essaies de faire de quoi qui sort de l'ordinaire, puis généralement, le but, là, ça va être d'arriver à une espèce de... Tu sais, faut que t'épices, mais pas trop, tu sais. Puis il y en a qui s'en calissent, puis ils versent toutes les pistes qu'ils peuvent, puis ça donne les decks qu'on va voir à l'instant. Par lequel tu veux commencer, Raouf?
Ben, je commencerai par Derek Boyce, qui a gagné le trophée du prix du deck le plus épicé, mais aussi, qui a aussi gagné le Balance Unlimited, juste pour faire réagir tout le monde. Il a gagné le tirage. Donc, en plus de. C'est ça. On avait un juge des decks épicés qui était Laurence Boulanger, on le salue, qui a une grande expérience en matière d'épices. Et il a déterminé avec tous ses points.
C'est le fameux Tribal Mana Battery.
Exactement. Qui a gagné et remporté la palme. Et le prix, c'est le Tribal Mana Battery.
OK, parce qu'à cause des hymnes là, de la madame avec une guitare, ça devenait...
Les Titania Song. Décris-nous le deck, François, de A à Z.
Ben écoute, les mana batteries sont des artefacts générateurs de mana qu'on voit très peu souvent. Derek les accélère en jeu avec des Mishra's Workshop qu'on voit à droite qui donnent 3 mana colorless pour casser des artefacts exclusivement. Et donc, il se retrouve avec beaucoup, beaucoup de mana. Mais devant l'adversaire qui ne comprend pas du tout ce qui se passe, à un moment donné, ce qu'il se passe, c'est qu'il va résoudre une Titania's Song, la chanson de Titania, qui transforme tous les artefacts en créatures qui ont Power Toughness égal à leur coût d'invocation. Et donc, toutes ces manas de batterie deviennent des 4-4 beaters, perdent leurs habiletés. Les artefacts de l'adversaire aussi, c'est la même chose, mais la plupart du temps, c'est des Mox. Donc, ils coûtent 0 à caster, deviennent des créatures 0-0, ils meurent. Et donc, comme ça, sans que personne ne s'y attende, en théorie, on se retrouve avec une armée de mana batterie, d'où le sobriquet mana batterie tribal. C'est ça le plan.
J'adore ça. Puis il y a 3 abysses pour que les abysses, c'est un enchantement qui, toutes les, à chaque upkeep, il faut que tu sacrifies une créature qui n'est pas un artefact. C'est ça. Fait que ça, ça clean la table pour se débarrasser là, des decks contre les decks Weenie, surtout là.
Ah, c'est mais... concept, hein? Ben oui, j'aime bien gros ça. C'est oui. quoi le spell qui est à côté des Sylvan Library? Là,
l'oiseau bleu, l'oiseau jaune, là?
Ouais, je vois pas.
Ça, on voit pas ça souvent. Tu la connais-tu, François?
Non. C'est Nature's Selection, je pense, ou Natural oui. Selection. C'est un, oui. c'est un spell qui coûte un vert. Tu regardes les trois cartes dessus de ta librairie. Et là, tu les mets dans l'ordre que tu veux, je pense, puis ça finit là.
Oui. C'est un des pires spells dans l'Old School. Il c'est juste là pour gagner des points d'épices.
Oui, je pense. Mais justement, ça, je pense que ceci nous amène à parler de l'auteur du deck en question. C'est Derek qui est extrêmement créatif, irrévérencieux, qui se contrefiche de la performance et qui va comme à fond les ballons dans l'investissement, la créativité, les épices, le cajun.
Derek est là pour avoir plus de fun que toi. C'est ça la définition de Derek.
Un fun différent, un fun fort différent. Et on voit ici toute l'audace, en fait, de Derek. Et c'est pas la première fois qu'il nous sort un deck comme ça qui est complètement hallucinant, qu'on n'aurait jamais pensé. Et donc, on tenait à le féliciter, le récompenser avec ce geyser du deck le plus épicé.
Vous remarquerez que c'est fully power, hein? Il y a les 5 Mox, la Black Lotus. Penses-tu que c'est des proxys?
Je ne pense pas que ce soit des proxys, parce qu'à l'œil, je regarde, ça a l'air de des Collector's Edition. Bien.
Magané, hein? On voit que c'est son magané. Ce deck-là est plus cher que votre deck de moderne, messieurs les auditeurs.
Ouais. Mais aussi.
Mais c'est tribal mana batterie, c'est fantastique.
Ben, les abysses, c'est quand même musclé aussi.
Les abysses, oui.
En sideboard, il y a 4 Chain of Mephistopheles puis 3 ouais. Rack.
Ouais.
Fait qu'il peut se transformer en deck de discard.
Cela dit, il a gagné aucune game.
Il n'a gagné aucune game.
0-6. mais il l'a fait, il a jamais droppé, il a fait tous ses matchs. Puis moi, je l'ai regardé sur Twitch, là, puis c'était vraiment ensemble. Parce que comme tu dis, François, ouais. au début, les gens, ils gardent leur... Tu vas pas spender un disenchant sur un mana battery. Là. Puis là, il te pop un deuxième mana battery, puis un troisième. Fait que les gens, c'était vraiment comme... comme un chevreuil dans des lumières.
Là. OK.
C'était quand même long, ces games. Puis, ouais. puis là, tu sais, il sort un... Mettons, tu joues un deck plein de créatures, là, il te sort un Abyss qui va chercher son Demonic Tutor, mettons. T'es fourré, là. Puis ça sort vite, hein, parce que c'est 5 Mox à Black Lotus, son Soul Ring.
Jason.
Ça sort vite, là, ces affaires-là.
Aucune victoire, Jason.
Ouais, mais zéro. Écoute, on salue quand même.
C'est sûr. Ça a été épicé, mais à un moment donné, trop d'épices, t'as pas un lunch mais bien consistant. Non, mais attends, preuve est là.
Je ne peux pas accepter que tu dises aucune victoire. Il a la victoire de la créativité. Ça, il l'a.
Ouais, les juges, c'était le deck le plus créatif du tournoi.
Exactement.
On passe au prochain?
C'était prêt.
Lequel?
On pourrait enchaîner avec Marc Fleury, en fait, qui a une petite passerelle intéressante, puisque
le sideboard
transformatif du deck devient à peu près le plan de match du deck de Marc Fleury qui est avec des Chains of Mephistopheles.
Ouais, 4 Chains of Mephistopheles. Ça, on n'en parle pas souvent, puis je vais la décrire. C'est un colorless, un noir, puis c'est un Ancient World, donc ça affecte toute la table. Puis à chaque upkeep de chaque joueur, pour chaque carte qu'il pige, il doit en discarter une. C'est-tu avant ou après?
Pour chaque carte qu'il pige après la première, si je ne me trompe pas.
Ouais.
Je sais qu'il doit finir par discarter, en tout cas.
Oui, ça, je me rappelle, dans le temps, j'en avais une de ça, j'étais
content. Oh, wow, le trésor.
Oui, j'avais vendu.
Oui, c'est ça, c'est ta carte normale que tu draws à ton draw step n'est pas affectée par le chain.
C'est ça.
Puis... Oui, c'est ça. Puis, il y avait des racks. Il y avait 4 racks. Il y avait le Ancient World aussi dans le genre là, qui fait le même effet que le rack là, pour un rouge.
Storm World.
Il y avait 3 Wind of Change pour faire discarter l'autre.
Exactement. La synergie, si c'est pas clair pour les gens, c'est que Winds of Change te fait repiger autant de cartes que ta main, mais dès que Chains est en jeu,
ouais.
Tu ne peux pas repiger. Donc, tu gardes ta main, puis c'est fini.
Puis lui, il a fait combien le score? 4-2, c'est quand même pas pire.
4-2. Donc, moi, je trouve que c'est une pile magnifique, très originale avec les Chains of Mephistopheles, donc qui rejoint un peu le plan de match de sideboard de Derek.
Aucune créature.
Aucune créature. Donc, deck magnifique et donc plusieurs effets qui résultent dans un mind twist effectif. Tu as le mind twist, là, tu tords. Le combo des chains avec Winds of Change, ça fait tout des mind twists. Balance, c'est un peu comme un mind twist si toi t'as rien en main. Puis ce que je trouve intéressant aussi, c'est justement qu'il a fait 4-2. Fait que ça montre qu'on peut avoir un deck épicé et quand même se tenir sur le bord de quelque chose qui est performant. T'sais, on peut optimiser un deck dont le concept est quand même très épicé. Ce qui est un peu ce que j'ai essayé de faire, en tout cas avec la Beast, même si je ne prétends pas que ce soit tellement épicé, mais c'est quand même quelque chose d'original.
Oui.
Donc, il y a quelques decks dans ceux que j'ai choisis dont on discute, que c'est justement des decks très originaux qui performent quand même pas pire. Et ça, je pense qu'on en voit de plus en plus émerger. Des decks originaux qui performent quand même pas pire, puis c'est super beau à voir.
Oui, parce qu'à un moment donné, on est tanné de voir des de decks, puis...
Puis on les voit de moins en moins, en fait.
Oui, on les voit de moins en moins, ça c'est vrai.
C'est bien.
Ensuite?
Ben ensuite, écoute, on a l'embarras du choix. On a Yannick Blanchette.
Oh, Yannick, moi je suis un gros fan de Yannick. Yannick ouais. De Québec.
Il y a un seul N.
Oh, je l'ai ici, là.
OK, OK, bien parfait.
Land Destruction Aura. Donc, son deck, là, c'est vraiment simple. Il y a 4 Submine pour péter des land. 4 Ice Storm, qui est 2 colorless, un vert, qui pète un land. Il y a 4 Blight, un enchantement pour 2 noirs, que si le land est tapé, c'est un enchant land, si le land est tapé, il est pété. Quoi d'autre qu'il y a?
C'est la même chose, mais il reste en jeu et il se transfère à une land.
Ouais. C'est quoi?
Oui, le Kudzu, hein? C'est ça, ce Kudzu?
K-U-D-Z-U.
Un colorless, 2 verts.
Comment ça, il n'y a aucun sinkhole là-dedans?
Ben, parce que c'est Yannick Blanchette.
OK, c'est bon.
Yannick Blanchette était probablement des sinkholes. Le gars, il joue Alpha 40. Là, il comme, ouais,
mais je pense que la clé qui manque, c'est que c'est un deck d'enchantress aussi.
Ouais, c'est, oui, c'est ça, excuse. Enchantress, un colorless 2 verts pour une 0-2. Chaque fois que tu joues un enchantement, tu piges une carte. C'est que ces enchantements qui pètent tes laines se remplacent. Puis vous remarquez les deux Skull of Worm qui vient de The Dark. Mmh, qui est un artefact pour 3 colorless, je pense.
Ouais.
Oui.
T'as pas ça, tu payes 5, tu le tapes, tu peux ramener un enchantement de ton graveyard dans ta main en riant grossement.
Puis il y a 8 Llanowar Elf, là, 4 Llanowar Elf, puis 4 Elf of the Deep Shadow qui accélère son mana, 4 Crumble pour péter les artefacts. C'est 2 Polus d'assurance, c'est 2 Hernan Djinn qui sont des grosses 8 4-5. 2 Sylvan Library pour trier son deck, là, des Icy Manipulator pour calmer l'autre. Mais c'est vraiment, je pète les laines de l'autre et je pige des cartes. C'était ça son fun de la journée.
Ouais, les IC manipulateurs, en fait, servent à taper la laine de l'autre sur laquelle il y a les enchantements.
Le Blight.
Pour après ça le ramasser, puis rire de ses erreurs les plus pires. On le voit aller, OK, j'aime ça, ça passe.
C'est très sadique comme deck, hein? C'est très sadique.
Très sadique, oui.
Mais ben, j'adore la
forme. C'est jamais pas sadique, on va se le dire. Hein?
Ouais.
Il n'y a personne qui se fait un deck de péter des landes. Moi, mon deck de péter des landes, c'est mon deck de chien. Puis c'est ça, c'est chien, péter des landes, c'est chien.
Oui. Ouais, chien. Ah, suivant?
Suivant, on avait Alex Blanchette pour suivre d'un Blanchette à l'autre.
Ben oui. Alex Blanchette qui est allé dans du gros burn. Lui, il est allé les 3 Shivan Dragon, 3 Disintegrate, j'ai pas besoin de les présenter, 4 Fireball, 4 Dragon Whelp, là, qui est le petit dragon 2-2 que tu peux booster avec Fire Breathing. 3 Bad Moon, 3 Blood Moon pour fucker les lands de l'autre. Mais là où ce qui se tombe dans le spicy, il y a 4 Gauntlet of Might qui double le mana que fait ses montagnes.
C'est ça.
Et qui donne +1/+1 à toutes les créatures rouges, mais c'est surtout ça double les manas que produit ces montagnes. Ouais. Et 3 Candelabra of Thanos qui vient d'Antiquities, que c'est un artefact que tu payes X pour untapper X land.
C'est ça.
Vous aurez compris que le but c'est de faire la plus grosse fireball possible.
Exactement.
Beaucoup de spells X, il y a notamment 3 Spell Blast qui est un counter spell pour X bleu. Il gagne mon approbation parce qu'il joue Spell Blast. Je suis un patron de cette carte-là. Je l'encourage beaucoup. Mais sinon, qu'est-ce qui t'a marqué de ce deck-là, François?
Ben, Candelabra, on remarquera que dans mon deck, j'en jouais un. Puis c'est quelque chose de très rare, mais lui a dédié un deck. Puis ça, c'est extrêmement original.
C'est un deck de Candelabra.
Parce que oui, une fois qu'il a Gauntlet en jeu et que chaque lane donne plus d'un mana, je tape 4 montagnes, ça me fait 8 mana. J'en utilise 4 pour untaper les 4 montagnes qui me refont 8 de plus. Donc, je suis rendu à 12 mana. C'est comme ça que les Candelabra multiplient l'effet des Gauntlets. Et c'est ça qui donne lieu à des fireballs gigantissimes mais aussi c'est Shivan Dragon et c'est Dragonwell qui peuvent être boostés à l'infini. Tu sais, Dragonwell.
Ouais, il y a Fire Breathing, oui.
Que c'est justement, tu peux, au-dessus de 3, il va péter à la fin du tour, mais ça ne t'empêche pas de le faire de 15 une fois, tu sais. Et un autre aspect très original, c'est que cet ensemble-là, très épicé, il vient mettre des Blood Moon en plus avec, ce qui est non seulement synergique, mais en plus, c'est très, très fort et tellement sous-joué dans le format. Avec tout le monde a des mana base qui sont extrêmement greedy.
Ouais, avec des double lands.
C'est ça. Donc, je pense que ça a vraiment du beau potentiel. Et d'ailleurs, il a montré, suite à ce tournoi-là, que ça avait pas juste du potentiel, c'était un vrai deck. Là, il fait 3-3, sauf que le week-end suivant, il a joué au NoobCon,
oui, c'est un autre tournoi américain.
Il est passé à un point, c'est un tournoi qui était en Italie, je pense.
OK, oui.
Et il est passé de faire le top 8. Et ça, c'est un tournoi de 100 joueurs avec les top joueurs d'Europe.
Fait qu'il était dans le top 16.
C'est ça, avec cette exacte pile-là.
Wow. Et,
j'ajouterai en plus que, si je ne me trompe pas, c'est un deck qui n'a pas de proxy. Donc, c'est d'autant plus, ma foi, impressionnant.
Oui, il a mis son cache dedans.
Ouais.
Et ensuite?
Ensuite, écoute, il restait Karl Rivet-Arnois, qui je pense qui est inscrit sous le nom de K-H-E-R.
Oui, Kerr Rivet-Arnois. Ça, c'est un autre sadique. Si vous avez... Moi c'est vraiment drôle. Une petite anecdote ici. Là. Tommy, ils aiment ces joueurs-là. Karl est un fan de deck de loop, mais c'est un... Fait que souvent, il nous fait chier. Là, il se branle à notre face. Mais c'est un gars vraiment sympathique, puis ça me dérange moins que d'autres. Fait que décris-nous son deck, Carl, François.
Ben, la beauté de son deck, c'est que c'est vraiment une grosse machine dont les engrenages fonctionnent ensemble, mais que les parties individuelles ne font pas grand-chose. Sauf que ça prend tout son sens quand tu le vois fonctionner. Et j'ai joué contre et je l'ai vu fonctionner.
On mentionne ici qu'il y a deux Library of Lang qui fait en sorte que tu n'es pas obligé de discarter. Tu peux la mettre sur le top de ta main quand tu te fais discarter.
Mais aussi que ta main
n'a plus de maximum de hand size.
C'est ça. Ta main n'a plus de taille maximale parce que son plan de match, en fait, c'est de mettre en jeu un land tax. Ensuite, si tu descends un peu vers ses lands, il a la land de Fallen Empire. Ouais.
Oui, le Rainbow Veil. Ça, c'est un land que tu peux la taper pour n'importe quelle couleur. Elle s'en va à ton adversaire. Fait que ça baisse ton nombre de lands. Le land tax pour les néophytes, c'est un blanc, un enchantement. À ton upkeep, si tu as moins de lands que ton adversaire, tu vas fouiller dans ta librairie pour sortir 3 basic lands. Tu les mets dans ta main. Puis il complète ça. Il y a 4 Ivory Tower qui va te donner de la vie pour chaque carte que tu as au-dessus de 4 cartes dans ta main. Vu qu'il y a un Library of Lang, il peut se ramasser avec des mains qui a 11, 12, 13. Moi, j'ai vu Karl cette fin de semaine-là. À un moment donné, il a monté à 146 points de vie.
Oui, c'est ça. Ça donne des choses comme ça quand la machine se met à fonctionner.
Fait que ça, c'est la machine.
Ça, c'est comme son engine principal. On peut mentionner aussi que Sylvan Library te permet de regarder des cartes. Et si tu n'aimes pas ce que tu vois, tu les remets sur le dessus. Et là, tu actives ton land tax, tu rebrasses, puis ça te permet de piger des cartes fraîches. Ça, c'est un peu le engine de base. Et comment il gagne, c'est en contrôlant le dessus de la librairie de l'autre avec Field of Dreams et Millstone.
Tu permets Field of Dreams?
Ça permet Field of Dreams.
C'est un Ancient ou Ancient World qui vient de Légende pour un bleu. Tous les joueurs jouent avec leurs cartes révélées.
Oui.
Puis ils power ça avec des mille. Il y a 3 Millstone, vous connaissez, là, 2 colorless pour un artefact que tu tapes pour 2 pour miller ton adversaire de 2 cartes. Moi, ça, je l'ai vu en action. Là, c'est vraiment fort. Le fait de voir ce que l'autre va piger le prochain tour grâce à ton Fields of Dream. Tu sais quand utiliser ton Millstone, puis ça fait toute la différence. Tu vois qu'il va piger un basic land, ben tu n'utilises pas ton Millstone. Tu vois que la carte qui va piger prochainement, c'est le Disenchant qui pourrait péter ton engine, ben là, tu vas le miller, tu sais. Ça fait vraiment toute la différence.
Et lui, il réussit à se sauver le désavantage de montrer sa carte avec ses Sylvan Library. Là. Il peut tout le temps aller piocher en dessous.
Oui.
Ouais, okay, j'aime ça.
Oui, c'est pas mal spicy.
Je la connaissais pas. Moi, celle-là, Field of Dreams, c'est le genre de carte que j'aime.
Ah oui, ça, c'est. Puis c'est un Ancient World, ça te débarrasse des. Oubliez pas qu'un Ancient World, quand il rentre en jeu, il pète les Ancient Worlds qui sont déjà là. Il peut seulement avoir un Ancient World à la fois sur la table. Ça représente, en fait, le plan sur lequel le duel est en train de se passer.
Puis ça existe encore, ça. Ils n'ont pas enlevé ça, les Ancient Worlds.
Non, non, ben, tu peux les jouer dans des formats qui sont légaux. Là. Tu vois, tu peux jouer en Legacy, Vintage, Commander.
Okay,
c'est juste qu'ils n'en ont jamais imprimé après Légende. Ils en ont imprimé dans Mirage.
OK. Bon.
Mais éventuellement, effectivement, ils ont arrêté de les faire. Puis ce qu'ils ont fait à un moment donné, c'est qu'ils ont sorti Plane Chase en 2008, qui était un peu un set de cartes là, que tu joues à côté, surtout pour du multiplayer, qui était sensiblement à peu près la même affaire. Ensuite, t'avais-tu d'autres choses à dire sur Carl?
Ben écoute, non, je pense que ça fait pas mal le tour du deck, mais je voulais juste mentionner que c'était une machine.
Il y a deux Rainbow Veil, hein? C'est deux LAN. Ça c'est trop drôle, le Rainbow Veil, parce que j'ai regardé un de ses matchs à un moment donné, puis c'est trop drôle. Il tape le Rainbow Veil pour se donner un mana, puis il avait pas encore son engine en jeu. Puis là, il dit à son adversaire, tu gagnes maintenant contrôle de mon LAN. Puis là, le joueur était vraiment comme, All right, c'est cool, genre, j'ai comme un land de plus, puis je vais pouvoir comme... Tu sais, tu donnes un land à ton adversaire, puis là, Carl a sorti son... Dans le même tour, il a sorti son land tax, puis son Ivory Tower, puis là, l'autre a compris que ça venait de finir là.
Ouais.
Bang!
C'est comme un deck qui t'amène inexorablement vers une mort...
Une mort lente par la goutte, le supplice de la goutte. Tu meurs par Millstone. C'est son finisher, hein?
Oui, exactement. S'il y en a qui ont joué moderne, le deck de lanterne contrôle, c'est un petit peu...
Ça ressemble à ça, oui. C'est un deck qui te fait chier. Là, tu viens en crise quand tu joues contre lui.
C'est ça. Et donc, voilà, ça fait pas mal le tour de ce que j'avais. Il y a plein d'autres decks full intéressants.
Oui, j'aimerais juste montrer là, pour ceux qui se demandent, c'est quoi... Il y a Patrick Burt, là. Ça, c'est le classique là, vraiment fort, pas spicy, en old school. C'est le fameux Counterburn. Vous voyez, il y a 4 Lightning Ball, 4 Chain Lightning. Ouais. 2 Pyroblast main deck, 2 Psionic Blast, ça c'est tous des spells de burn. Il y a ses Power 9 au complet ici, puis c'est surtout là, 4 counter spells, mais c'est surtout son finisher, c'est les Serendib et Frit qui sont des 3-4 flying. Ça c'est vraiment là, il a fini en fait en finale contre François, ouais. Puis François l'a complètement locké avec son combo qu'on a parlé pendant la carte de la semaine.
C'est cruel de tabarnak. Puis ça, c'est pas pire aussi dans ces affaires-là parce que, je mélange avec, mettons, tu sors ta Song of Titania, ben là, tu pètes tous les artefacts de l'autre. Là. Si c'est des mox, ils meurent. Ça devient des monstres 0-0. Fait qu'ils meurent.
T'as une autre carte que j'ai remarqué que les gens ont commencé à jouer qui fait la même affaire, c'est le Poltergeist. Zenic Poltergeist, c'est ça. C'est une créature noire qui, tu la tapes puis elle transforme un artefact en créature.
Oui.
C'est un genre de royal assassin à box.
Ouais.
On parlait dernièrement avec la gang, justement, comme quoi, gros potentiel là-dedans, c'est pas très joué, mais c'est ça qui est le plus remarquable, c'est que ça fait quoi, 4 ans qu'on joue au school, juste nous autres, mais il y en a que ça fait plus longtemps. Mais il y a encore comme ça des petits bijoux qui émergent, là, puis des decks qui émergent, puis tu sais, il y en a qui disent souvent, je vais citer Carl justement, qui disait que c'était un metagame claustrophobique pour jouer. Il y a encore plein de nouveautés qui arrivent, puis c'est super trippant encore. Puis encore plus par webcam, ben, c'est sûr qu'on a hâte de jouer.
Ouais, j'ai hâte de jouer d'abord.
Mais quand même, on a vraiment du fun, puis ça continue d'être vivant, tu sais. Puis avec les proxys aussi qu'on permet, il y a encore des nouveaux qui viennent, puis c'est trippant, là, tout fun. C'est ça.
On les salue. Il va y en avoir d'autres, là.
Ben oui,
y a pas mal de nouveaux qu'on a pognés par terrain basique que ça me surprend à chaque fois. Là, je joue contre quelqu'un et il me montre qu'il y a notre chandail. Là, c'est tout le temps que awesome.
C'est ça. T'amènes plein de monde dans votre trip de tantric. Là. Écoute, l'important, c'est d'avoir du plaisir entre adultes consentants. les liens vont être dans la description du show si vous voulez joindre le club tantric de nudistes habillés de nos amis François et Jason. Vous allez pouvoir faire ça vis-à-vis là.
Tu nous amènes ton deck de Leviathan Spawning Bed, Tommy, là?
Ah oh, oh, oui, je travaille.
C'est dû, là.
Oh, oui. oui?
Ça, c'est épicé.
Comment t'as dit ça?
J'ai dit ça, c'est épicé, pas pire.
Ouais, le Victory Spawning Bed, ça pourrait spawner.
On va un voir jour, Tommy va se déniaiser, là, puis il va enlever sa serviette, puis il va embarquer dans le bain, nous autres, là.
Ouais. on verra. Peut-être dans quelques mois, hashtag année. Voilà. Hey, ben, écoutez, je pense que ça nous amène à la fin du show. Les liens appropriés vont être dans la description. Je pense qu'à ce moment-ci, on remercie beaucoup François. Merci d'être passé nous voir. Félicitations aussi pour avoir contribué à transformer un passe-temps en de quoi pour financer une œuvre caritative qui s'occupe des enfants. On espère voilà, hein, que tous les jeunes vont avoir de la crème solaire. C'est tout plat. C'est ça. Merci Jason d'avoir participé. Merci à Martin au montage. Merci aussi à Chinook, hein, qui est pas là, mais bon. Graveyard! Merci aussi à Bone pour le beat et à l'Abyss. Là-dessus, on a de la merch disponible sur Spotify, puis je pense que ça nous amène à la fin de l'émission. Hein. Je souhaite à tous et à toutes d'être le moins manascrew possible.
De la famille H2O Web Media.